n'y a pas de plus grande injustice que de refuser à un peuple le droit à l'histoire.
Jacques Chirac dans le texte.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie, il est en studio d'Alain Gérard Slama. Bonjour.
Bonjour.
Ancien professeur à Sciences Po, ancien éditorialiste à France Culture, ses auditeurs du matin s'en souviennent. Je vais tenter une expérience. Vous, ici, derrière notre table, et Jacques Julliard, dans sa bibliothèque à Bourg-la-Reine, de dialogue entre un ancien éditorialiste du Figaro, parce que vous avez travaillé au Figaro.
Certes, certes.
Et puis un nouvel éditorialiste du Figaro, Jacques Julliard, il travaille, lui, maintenant. Bonjour Jacques Julliard.
Bonjour Jean Lebrun.
C'est un petit peu singulier la situation que nous avons créée, là, parce que Alain Gérard Slama passait pour être à gauche de la droite.
Disons oui, enfin.
Quand il écrivait au Figaro.
Oui, c'est une boutade, mais c'est un peu ça, on peut...
Et maintenant, vous vous sentez à gauche de la gauche?
Presque, je voilà. Veux dire que, indiscutablement, j'ai évolué par rapport à beaucoup de problèmes. Parce que, tout simplement, ce sont des trajectoires normales. Il est plus logique, d'ailleurs, qu'on évolue de gauche à droite que de droite à gauche.
Hein. Voilà.
Il y a une exception qui s'appelle Mitterrand.
Et je ne vais pas demander à Jacques Julliard s'il est une exception, parce que le sujet aujourd'hui, c'est Jacques Chirac
Je dirais qu'il fait honneur au Figaro, tout de même. Voilà.
Dites-moi, Jacques Julliard, un souvenir personnel, d'abord?
Oui, écoutez, il y a bien des manières de juger des présidents. Je commencerai par la plus banale. De tous les présidents de la République que j'ai eu l'occasion de rencontrer, c'était le plus sympa. Autrement dit, la première fois qu'il m'a reçu à déjeuner, c'était un tête-à-tête, je ne me rappelle plus à quelle occasion il m'avait fait cet honneur, eh bien, au bout d'un moment, il m'a dit, on tombe la veste. Hein. Ouais. Je lui ai dit, écoutez, avec plaisir, etc. Il faisait chaud ce jour-là.
Jacques Julliard, on sera nous-mêmes un peu Ross dans les archives que nous avons choisies. Et puisque vous parlez de première rencontre avec Jacques Chirac, je vous propose d'écouter le récit de la première rencontre entre Jacques Chirac, jeune candidat aux législatives en Corrèze, avec un ponte du département, non pas Henri Queuil, qui avait été résistant et était parti à Londres. Non, avec Charles Spinasse, l'ancien socialiste devenu pétiniste et toujours tout puissant à Égletton. Et donc, le jeune Chirac se présente à lui.
Je l'ai fait entrer, il s'est assis dans ce fauteuil. J'observais un moment ses traits fins et ce visage tranchant comme une lame. Et sous un front très haut, un regard présent, occupé de tout ce qui était autour de lui, très vif et parfois dur même, je le laissais parler. Alors il m'exposa ce qu'il était, ce qu'il voulait, ce qu'il ferait, avec tant de netteté dans les idées, de justesse dans l'appréciation des faits et une assurance si tranquille dans l'expression de la volonté que j'ai été vraiment frappé ce jour-là par à la fois la fermeté du caractère et la qualité exceptionnelle de l'esprit.
Et c'est comme ça que Jacques Chirac, qui se présente comme gaulliste, reçoit le double label du président Queuil, radical socialiste, et de Charles Spinasse, ancien pétainiste. Jacques Julliard.
Oui, écoutez, ces contradictions, elles font partie du personnage. Nous avons tous en nous quelque chose, non pas de Tennessee, mais de Jacques Chirac. Que l'on soit d'extrême droite, à certains moments, il a représenté des positions Algérie-Française très violentes. On le considérait comme un fanatique de l'armée. Jusqu'à l'extrême gauche, puisque dans sa jeunesse, il a signé l'appel de Stockholm. En 1968, il a négocié avec la CGT, avec beaucoup de, je dirais, de complicité. Sans compter que il a été de toutes les cohabitations, il a cohabité, je dirais, passivement et activement, tantôt comme Premier ministre, tantôt comme Président de la République. Autrement dit, avec toutes ses extrémités, il s'est retrouvé dans l'esprit des Français comme une sorte... Il n'est pas centre.
Voilà. Et vous parlez souvent, Jacques Julliard, de votre propre conseil d'administration intérieur où se juxtaposent des tendances diverses. Et en cela, vous ressemblez peut-être à Jacques Chirac. Je me tourne vers Alain Gérard Slamat. D'abord, première question, un souvenir personnel?
Ah oui, un souvenir personnel pour avoir contribué en partie à la rédaction du discours des Gletons, dans lequel Chirac a proféré le fameux appel à un travaillisme à la française. Je crois que Chirac savait pas grand-chose sur le passé de Spinas. Il avait été mis en relation avec lui par Marie-France Garraud, si j'ai bonne mémoire. Et qu'est-ce qui lui plaisait dans l'affaire ? Le dépassement de la lutte des classes, qui était une des obsessions du général de Gaulle aussi, n'oublions pas. C'était un pointillé qui pourrait rejoindre d'ailleurs Pétain et de Gaulle. Je veux pas choquer les gaullistes en disant ça, mais c'est vrai. De Gaulle voulait dépasser la lutte des classes.
Oui, mais enfin, le gaullisme, c'est un comportement permanent, dit parfois Jacques Chirac. Enfin, il dit ça le 14 juillet. Oui,
Chirac n'était pas un idéologue. Il n'était pas un idéologue. Il voulait dépasser la lutte des classes. Il a cru à ça pendant un certain temps. Et vous savez, les réformes du Conseil économique et social, c'est un vieux thème, hein, de rassembler le Conseil économique et social et le Sénat. C'était, en fait, Spinas pour Chirac, ça représentait ça, et rien d'autre.
Si vous voulez bien, je fais un saut dans le temps. Mais à l'époque de Jacques Chirac, on pouvait être à la fois député de la Corrèze et maire de Paris, ça lui est arrivé. Nos archives sont rosses et singulières, mais elles témoignent de la mémoire que les Français ont de cet homme qu'ils trouvaient sympathique parce qu'ils pouvaient se moquer de lui. Nous sommes ici, non pas dans la marche de l'histoire, mais dans la marche du siècle en 1990, donc chez Jean-Marie Cavada.
Tokyo est une ville qui a bien des problèmes d'urbanisme et qui est traversée par une rivière qui s'appelle la Sumida. Et compte tenu des efforts que nous avons faits pour rendre la Seine propre, ce qui n'est pas achevé, mais la Seine il y a 10 ans était un égout, et aujourd'hui elle est presque propre, et dans 4 ans ou 3 ans elle sera tout à fait propre. Alors, nous avons décidé, monsieur Suzuki et moi, de jumeler la Sumida et la Seine. Et alors au titre de ce jumelage, monsieur Suzuki va venir au mois de septembre avec des carpes pêchées dans la Sumida qu'on va lâcher dans la Seine. Et au mois d'octobre, je vais apporter un certain nombre de poissons pêchés dans la Seine qu'on lâchera dans la Sumida, n'est-ce pas? Oui. Mais ceci me permet de vous dire quelque chose.
Où est le lièvre?
Et voilà. J'ai entendu plusieurs fois parler avec scepticisme de la propreté de la Seine. Et avec horreur de l'idée qu'il pourrait y avoir un système écologique fonctionnant à peu près normalement ou ce rétablissement dans notre fleuve. Alors j'étais heureux de trouver le Chasseur français, qui n'est pas du mois de novembre dernier.
C'est pourtant pas une publication corrézienne, ça.
Ce n'est pas une publication corrézienne, mais c'est une publication proche de la nature, et à ce titre proche de mon cœur, où l'on voit d'ailleurs deux pêcheurs avec deux superbes poissons, n'est-ce pas, pris dans la Seine, et ce Chasseur français indique, pour rester dans les îles, celle dite des Cygnes côté Seine-Bramore, c'est-à-dire à Paris, et certainement un des meilleurs coins de pêche de France, cendres, perches, brochets, carpes, rotangles, etc. Et il ajoute un peu plus loin, aujourd'hui les poissons de Seine sont parfaitement consommables, et il dit enfin, le nombre, la variété des espèces représentées est en constante augmentation. Au dernier recensement, plus de 25 poissons différents trouvaient des conditions de vie adéquates dans la Seine. Voilà pourquoi j'affirme que l'on peut rendre un fleuve propre. Et j'ai d'ailleurs indiqué que dans 3 ans, j'irai me baigner dans la Seine, devant témoins, pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre.
Promettez-moi que ce n'est pas une page de publicité, je ne parle pas de la baignade, mais de ce que vous venez de lire.
Non, mais c'est un hommage rendu tout de même à des experts.
Alors, j'étais tout à fait étonné de voir plonger dans le Chasseur français, j'ai maintenant compris pourquoi.
C'est en tant qu'abonné du Chasseur français qu'il gère Paris un peu comme une fédération de villages, Alain Gérard Slama?
Non, c'est un héritier de Pompidou. Dans ce qu'on vient d'entendre, c'est très clair. Si vous voulez, vous avez deux partisans, deux types de partisans. Ceux qui voulaient construire les berges de la Seine avec des voies rapides pour les voitures, et ceux qui disaient, bah pourquoi pas, mais il faudra mettre des jardins par-dessus. Vous voyez à peu près, vous voyez l'image. Bon, la métaphore, c'est ça. C'était la conception de Chirac. Il n'y avait pas encore. Si vous voulez, la mort de Chirac va être un événement très important pour faire saisir par un certain nombre de momies dont je suis et que vous avez l'amabilité de sortir de leur sarcophage, le fait générationnel. C'est, je pense, que l'accélération de l'histoire amène des gens qui ont la plus 70 ou 80 ans, ce qui n'est pas énorme, hein, à s'apercevoir qu'ils appartiennent à un passé qui est devenu inintelligible pour leurs contemporains.
Jacques Julliard, qui ne se résout pas du tout au rôle que vous acceptez pour vous. Jacques Julliard.
Écoutez, moi ce qui me frappe, c'est que cet homme qui appartient à notre passé à tous, comme je disais tout à l'heure, trouve le moyen d'être prophétique à certains égards, puisque il est écolo, non seulement quand il parle de la Seine, dans son action comme maire de Paris, mais il y a une phrase qui, même avant sa mort, a été répétée tous ces derniers temps, il dit « quand la maison brûle, nous regardons ailleurs ». Et donc, Chirac, qui était le contraire d'un idéologue, mais qui avait un sentiment très très physique de la cohabitation avec le peuple français en quelque sorte, eh bien se retrouve aujourd'hui comme une sorte de facteur d'unanimité. Je n'ai encore pas entendu toutes les réactions, toutes n'ont encore pas eu lieu, mais je suis convaincu que le décès de Jacques Chirac va être un grand moment d'unanimité nationale, tout simplement parce que je crois que, oui, je voudrais dire encore cette chose, politiquement c'était un tueur, et dans le privé, c'était un chic type. Alors, c'est cette contradiction que les Français apprécient, et encore une fois, ça va être un moment d'unanimité, je le crois.
Alors que Bernadette Chirac, observant qu'il n'arrivait pas à se faire élire président de la République, avait fini un moment par conclure, Jacques Julliard, « Les Français n'aiment pas mon mari ».
Oui, c'est vrai que Chirac avait des côtés aigus, et qu'il a mis du temps à arrondir les angles. Mais enfin, au bout du compte, il a été élu et réélu, et je crois que le score qu'il a obtenu la seconde fois, qui est de plus de 82%, on n'est peut-être pas prêt de le revoir. Autrement dit, sa carrière, c'est une ascension permanente. C'est très impressionnant.
Merci, merci à vous, Jacques Julliard. Enfin, une ascension en dents de scie, parce que la prochaine archive que je vous promets de vous faire entendre concerne la deuxième candidature réussie de Mitterrand président. Enfin, la reconduction de Mitterrand. Nous sommes en 1988. Mitterrand débat avec son premier ministre, Jacques Chirac, et il est question, bien sûr, de l'ombre portée du Front National.
Aucun d'entre vous ne peut être élu sans une partie plus ou moins importante de l'électorat de Jean-Marie Le Pen. Alors, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour l'attirer? Et l'attirerez-vous, cette partie de cet électorat, Monsieur Mitterrand?
Moi, je n'ai rien à faire. Je défends les idées que j'ai toujours affirmées. Je ne m'adresse absolument pas à un parti politique particulier, notamment pas celui-là, dont les idées et les projets sont aux antipodes des miens, dans les domaines que je connais. Et je n'ai donc aucune raison de faire un appel particulier à ce public. Chacun, chacune se reconnaîtra à sa guise. Les électeurs sont libres de s'exprimer.
M. Girard. Nous ne nous trompons pas de République, n'est-ce pas? L'élection présidentielle, et c'est pour ça que le général de Gaulle avait voulu cette élection au suffrage universel, signifie un dialogue direct entre les électeurs et le président, ou le candidat plus exactement. Ce dialogue est engagé. Il ne s'agit pas, naturellement, pour moi, de classer les électeurs dans telle ou telle catégorie de droite, de gauche, du centre, etc. Moi, je m'adresse aussi, cela va de soi, à tous les électeurs, et je respecte, par définition, parce que je suis un démocrate, tous les électeurs d'égale façon.
Le phénomène Front National s'explique par bien des raisons, et sans doute par un malaise profond de millions de gens qui se sentent malheureux ou angoissés ou anxieux. Bon, mais il me semble que ce qu'il faut récuser, c'est l'idéologie et le programme politique d'un parti comme celui-ci. Il ne faut pas être complaisant. Et j'espère, je n'ai pas toujours eu ce sentiment, que Monsieur le Premier ministre ne sera pas complaisant. Quant à ceux qui y adhèrent, c'est une autre affaire. Je crois qu'il faut surtout entendre et comprendre la demande sociale qu'ils expriment. Il ne faut pas être sourd. Naturellement, si on est sourd aux problèmes fondamentaux de la vie quotidienne dans la ville, des inégalités sociales, alors on encourage ce mouvement. Alors je crois qu'il faut être très ferme sur les principes, très ouvert sur la demande, mais il ne faut pas faire de concessions à la démarche de ce parti.
Il n'est pas dans l'esprit de nos institutions, dans une campagne présidentielle, de faire la moindre concession à quelque parti que ce soit, ni d'ailleurs à quelque idéologie que ce soit. Il faut simplement essayer de comprendre des hommes et des femmes, d'où qu'ils soient. Toutes celles et tous ceux, notamment, qui ont voté à droite ou à gauche pour d'autres candidats que ceux qui avaient exercé ou qui exerçaient les responsabilités du pouvoir. Pourquoi sont-ils là et si nombreux? Les uns, je dirais plutôt à droite, encore que ces divisions sont un peu arbitraires, parce que s'est développé, Monsieur Mitterrand, sous votre quinquennat actif, si j'ose dire, c'est-à-dire de 81 à 85, un certain nombre de phénomènes qui ont été insupportables pour beaucoup de nos concitoyens. Ça a été vrai avec le développement du chômage, au-delà encore du niveau élevé qu'il avait atteint avant, et surtout d'un certain nombre de mesures qui ont été prises et qui ont créé cette nouvelle pauvreté, cette misère qui a été très mal ressentie. À juste titre, naturellement, et que nous voulons tous combattre. Ça a été ensuite une politique à l'égard de l'immigration, et notamment une complaisance à l'égard de l'immigration clandestine, qui ont beaucoup choqué un certain nombre de nos concitoyens, et créé des problèmes de comportement, et c'est ainsi qu'on a vu se développer des sentiments que vous, comme moi, récusons par ailleurs. Et enfin, c'était un problème lié au développement de l'insécurité. Savez-vous, Monsieur Mitterrand, que les statistiques officielles montrent que de 1981 à 1986, il y a eu 600 crimes et délits de plus par jour. C'est exactement le chiffre que l'on décompte en moins pour ces crimes et délits de 86 à 88. Donc ce sont ces phénomènes qui ont créé cette espèce de réaction. Vous êtes à l'origine de ces phénomènes.
Jacques Chirac, dans le texte, avec de longues citations dans cette marche de l'histoire, après le décès de l'ancien président de la République et des éditorialistes, tous singuliers, qui nous ont rejoints. Philippe Reynhardt, bonjour.
Bonjour.
Quand je qualifie d'éditorialiste singulier, je devrais aussi ajouter que vous considérez souvent le romanesque de la vie politique, au point d'ailleurs d'écrire des romans. On s'interrogeait tout à l'heure sur le gaullisme à segments, à intermittence ou bien permanent de Jacques Chirac. Quant à ses positions face au Front National ont-elles été marquées par une constance remarquable?
Oui, il y a une vraie constance dans le refus du Front National de la part de Jacques Chirac. Il est viscéralement contre. Et ça n'est pas un simple choix politique, politicien. Ça, vraiment, le Front National, c'est pas sa tasse de thé.
Alain Gérard Slama, on a l'impression que la politique du Front républicain, qu'il a incarné à un moment, relève, comme beaucoup d'autres caractéristique de sa vie politique, comment disiez-vous tout à l'heure, de la spéléologie, de l'archéologie, de l'ancien, du souterrain?
Je pense qu'il y avait une conception de la politique qui, effectivement, est en train de disparaître. Et je le regrette un peu, d'ailleurs, parce que ça se répercute sur la pratique de nos institutions. Au fond, qu'est-ce qu'il voulait? Ma première rencontre avec lui, c'était en 1975. Il m'a dit « Je compte sur vous pour ne pas être entraîné à droite ». C'est quand même intéressant. Mais qu'est-ce que ça voulait dire quand vous prenez, vous regardez la suite? C'est que il pensait que on ne peut pas diriger un vrai rassemblement. Il n'y a plus de possibilité de vrai rassemblement en France dès cette époque. Il était devenu chef de parti. Il a fondé un parti, le RPR, le Rassemblement pour la République. Mais il est vrai aussi que le dirigeant dans un système d'alternance droite-gauche, le dirigeant élu, se doit de diriger le pays en prenant en compte les positions adverses, sans quoi il n'aura jamais de majorité. C'était ça son obsession. Et c'était une certaine logique qui faisait qu'il ambitionnait lui aussi, mais comme Giscard d'ailleurs, il n'était pas si séparé que ça, hein. Comme Giscard, gouverner au centre.
C'est-à-dire être un lien de division, un lien dans la division qui devient un lien de division.
Et qui peut être effectivement, la démocratie c'est du conflit, mais le conflit suppose aussi des accommodements nécessaires avec le parti adverse, enfin des formations et des sensibilités adverses. Et ça, si vous voulez, c'est un gouvernement au centre qui en résulte, tout en gérant le conflit, alors que nous avons aujourd'hui un gouvernement du centre qui génère les conflits.
Vous avez le droit, Philippe Reynaert, de prendre des positions de conflit hein, et d'accentuer les divisions. Je vous entendais tout à l'heure protester, mais mollement.
Non, je ne protège pas mollement. Je pense simplement que Jacques Chirac est une personnalité d'une complexité extrême.
Expliquez.
Alors, écoutez, sa vie politique commence de manière anecdotique par quand il rejoint les distributeurs de tracts pour l'appel de Stockholm. Et à ce moment-là, il vend l'humanité dans les rues. Donc, il est de gauche au départ. Et puis, toute sa carrière politique est fondamentalement de droite, jusqu'au moment où il peut tout seul, contre tous ses amis, il devient une figure emblématique de la gauche, ce qui est quand même très curieux, c'est un curieux chemin. Et il vient de la droite et il termine à gauche. Alors à gauche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jacques Chirac fait partie des gens qui ne veulent pas faire la guerre en Irak, et il le fait avec force. Et puis, il a par ailleurs un incroyable tableau de chasse. Et ben, toutes ces victimes sont de droite. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça.
Enfin, je sens, Philippe Reynaert, que, à la différence d'Alain Gérard Slama, vous n'auriez pas été la plume de Jacques Chirac. Vous avez été la plume de Jacques Chirac, Alain Gérard?
À maintes reprises, le discours fondateur du RPR, je l'ai rédigé avec Alain Juppé, et Dominique Latournerie, d'ailleurs, nous étions trois. Et j'ai eu de bonnes occasions, j'ai été délégué national aux études du RPR entre 1978 et 81, et je me suis séparé de lui sur son choix tactique de 81, qui me paraissait malheureux.
Me vient, parce qu'on va parler de politique étrangère, une image du film Quai d'Orsay, quand Dominique de Villepin fait refaire sans cesse à ses plumes le discours de l'ONU. Comment était-il quand vous parlait à vous?
Il prenait assez facilement, mais il exigeait aussi assez facilement. Il suffisait qu'on lui dise qu'on avait un moment de tranquillité pour prendre un petit déjeuner, pour qu'il vous dise « alors vous allez être libre, faites-moi tel ou tel travail ». J'ai admiré la capacité de travail d'Alain Juppé à cette époque-là.
Alors, puisqu'on parle de politique étrangère, et avant qu'on ait au bout du fil Claude Martin, ambassadeur de France, et qui fut ambassadeur en Chine, histoire de faire la transition entre la Corrèze et le vaste monde, cet écho de la visite en octobre 1999 du président chinois d'alors, qui était allé danser dans le salon du château de Biti avec Madame Chirac.
Grand calme d'une après-midi d'automne en Corrèze. Les routes sont désertes et les gendarmes sont tranquilles. Seul préparatif visible de l'arrivée imminente du président chinois au cœur de la Chiraki, ce camion qui balaye les feuilles mortes sur la route que va emprunter le cortège officiel. Pourtant ce soir, pour la première fois, Jacques et Bernadette Chirac accueillent chez eux, au château de Biti, un chef d'État étranger et son épouse. Député, voisin de circonscription, François Hollande n'apprécie pas.
Il faut rester dans un cadre qui doit être celui des relations diplomatiques, politiques normales, et ne pas donner un caractère privé, amical, intime.
À quelques kilomètres de Biti, c'est ici, dans cet hôtel confortable, que loge la délégation qui accompagne le président Jiang Zemin. Mais on ne saura pas ce qu'elle pense de la qualité de l'accueil. Les Chinois fuient la caméra. Mais sur la place du village, les Corréziens, eux, donnent leur avis. Que le président Chirac reçoive chez lui le président chinois ?
Oui, enfin, ça. Moi, personnellement, je serais contre, mais en fait. Ce n'est pas une dictature, c'est en pleine évolution. On ne ferait jamais rien.
Ben enfin, même dans le camp de M. Chirac, je constate une chose, c'est qu'il y en a qui sont contre. Hein? Ça, il faut quand même faire cette remarque. Hein?
Mais à Brive, les défenseurs des droits de l'homme étaient quelques dizaines seulement à manifester contre la présence du président Jiang Zemin.
À ceux qui lui reprochent de trop bien accueillir le président chinois, Jacques Chirac répond que le dialogue est encore le meilleur moyen de faire avancer la démocratie. Et cela concerne plus d'1,3 milliard de Chinois.
Cette archive était là pour tourner la page et pour vous introduire, monsieur l'ambassadeur Claude Martin.
Bonjour.
Dans votre volume de mémoire, vous avez lu le volume de mémoire Alain Gérard Slama de Claude Martin ?
Et apprécié à sa juste valeur, c'est un livre en effet remarquable. J'ai l'occasion de le dire et ben j'en profite, je la saisis.
Et moi je ne l'ai pas sous la main, Claude Martin, et le nom de Jacques Chirac qui revient souvent.
Oui, absolument. Je suis très triste aujourd'hui parce que la diplomatie pour moi c'était le général de Gaulle et Jacques Chirac. Et Michel Jobert, un personnage qu'on a un peu oublié, mais auquel j'ai dédié mon livre. Et la politique étrangère de Jacques Chirac, c'était une politique étrangère qu'un ambassadeur était fier de défendre et de porter. Je pense que, à l'instant, j'entendais évidemment François Hollande dire que c'était pas tout à fait convenable d'inviter le président Jiang Zemin en Corrèze. Je me permettrai respectueusement de le contredire. Les relations diplomatiques, elles doivent aussi avoir un caractère personnel. Nous avons eu pendant des années une relation exceptionnelle avec la Chine. Elle était due à la relation personnelle que Jacques Chirac avait nouée avec Deng Xiaoping. Ça avait commencé en 1975 et ça a continué jusqu'à la mort de Deng Xiaoping en 1997. Ensuite est venu Jiang Zemin et puis d'autres. Mais il est très important que les dirigeants aient des relations personnelles.
Alors, vous avez accompagné Jacques Chirac en Chine ?
Je l'ai accompagné à de nombreuses reprises, beaucoup comme maire de Paris, quand j'étais ambassadeur. Et j'ai vu qu'il était traité comme un grand homme d'État. Beaucoup s'attendaient déjà à ce qu'il devienne président de la République. Mais c'était plus que ça, c'était pas seulement un calcul. C'était aussi parce que Jacques Chirac, c'était une politique qui était une politique stable, qui obéissait à des principes, et sur laquelle on pouvait s'appuyer, une continuité fondée sur l'histoire, une grande connaissance de l'histoire, une continuité fondée sur l'héritage gaulliste, une continuité qui consistait essentiellement à porter un message, celui de la France, et un message qui soit entendu dans le monde entier.
Alors, puisqu'on parle de la Chine, on parlera ensuite de l'Europe, si vous le voulez bien, parce que vous avez été aussi ambassadeur en Allemagne. Si on parle de la Chine, la politique française vous paraît marquée par une continuité, vous égratignez plus d'une fois Valéry Giscard d'Estaing, peut-être aussi François Mitterrand, dans votre livre. Mais quelle continuité entre Giscard, Mitterrand, Chirac, dans la politique vis-à-vis de la Chine ?
Écoutez, je n'égratigne personne. Je dis simplement que je suis entré en diplomatie avec le général de Gaulle. par l'acte fondateur de la reconnaissance de la Chine en 1964. Je suis allé immédiatement à Pékin. J'ai été envoyé jeune, tout jeune, attaché culturel à l'ambassade. Et ensuite, je suis retourné en Chine à plusieurs reprises pendant 16 ans. Mais l'acte fondateur, c'était celui-là. C'était le général de Gaulle disant... La Chine, c'est un pays important, quel que soit son régime, quelle que soit la nature de son orientation politique, quels que soient ses dirigeants, on traite avec la Chine. Chirac était dans cette filiation-là. La première chose qu'il a dite lorsqu'on a commencé à se dire « la Chine ne respecte pas les droits de l'homme, il faudrait lui apprendre à faire ceci ou à faire cela », c'est que lui, il traitait la Chine comme une réalité sur la scène internationale, un partenaire avec lequel il fallait dialoguer et un partenaire que l'on respecte pour pouvoir dialoguer avec lui.
Une dernière question, Claude Martin, il n'était pas étranger à votre nomination en Allemagne. Alors,
oui, absolument.
Une citation un peu rosse, c'est une interview au New York Times de 2003. Je vais vous dire, j'ai jamais été un euro-militant, je suis un euro-pragmatique, je fais pas de théorie sur l'Europe, je ne dis pas voilà ce qu'il faut qu'elle soit, je dis elle sera et il faut faire en sorte qu'elle soit le mieux possible.
Oui.
Traduction et commentaire.
Oui, écoutez, d'abord, Jacques Chirac m'a nommé en Allemagne, mais avant, il a essayé à de nombreuses reprises de me convaincre de retourner comme ambassadeur en Chine. Et finalement, c'est moi qui lui ai dit, Monsieur le Président, le partenaire avec lequel nous devons aujourd'hui faire de la politique étrangère, y compris vis-à-vis de la Chine, c'est l'Allemagne. Et il faut souder la France et l'Allemagne sur la scène internationale. L'Europe, c'est bien, mais il savait... comme je l'ai toujours pensé, qu'à partir du moment où l'Europe s'est élargie, qu'elle a eu 27, 28 membres, on ne pouvait plus faire une politique étrangère en Europe. Et donc, sa conviction, c'est que la politique étrangère, ça se faisait avec quelques Européens, et puis la structure autour, eh bien, il fallait l'accepter. Il a, sans beaucoup d'enthousiasme, laissé se faire le projet de constitution européenne. Il l'a, avec un scepticisme tout à fait évident, soumis au référendum du peuple français, qu'il a rejeté, et il n'en était pas plus triste que ça. Son idée, c'était l'Europe de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, si elle veut être avec nous, de l'Italie, de l'Espagne, et de ceux qui veulent. Mais c'est une Europe de la volonté, et non pas une Europe des institutions, des structures, l'ectoplasme que l'Europe est devenue.
Merci à vous. On reconnaît le disciple de Jacques Chirac, mais aussi de Michel Jobert, dans vos propos. Un mot sur la politique étrangère, Alain Gérard Slama ?
Oui, je pense que on a dit tout à l'heure qu'il était complexe. Il avait des idées assez simples, et en politique étrangère en particulier. C'était encore une époque où on respectait les États-nations et où l'idée de ne pas commettre d'intrusion dans la politique des autres États-nations, c'était une manière de nous protéger nous-mêmes. C'est fini, cette affaire-là, avec l'ingérence, etc. Mais, en revanche, il faut inscrire à son actif et de sa modernité, et j'en ai parlé souvent avec lui quand il était président, c'est cette idée fondamentale, fondatrice chez lui, que le droit et l'instauration du droit dans les relations internationales était pour chacune de nos sociétés une question de vie ou de mort. Il employait des formules extrêmement fortes sur ce sujet, et là, je crois qu'il peut avoir une postérité.
Merci encore de votre témoignage. On vous retrouve dans un instant, après qu'on aura entendu celui de Catherine Clément. Catherine Clément, bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, elle n'est pas là. Alors, avant qu'on entende Catherine Clément, une archive. Une archive qui devrait la faire nous rejoindre, parce que cette archive a une grande force d'aimantation. Nous sommes à l'époque où il est maire de Paris. Nous sommes au moment de l'anniversaire des grandes découvertes. C'est un mot qu'il n'aurait pas aimé. Il aurait préféré parler de première rencontre. Vous êtes là, Catherine Clément ?
Je suis là, tout à fait.
L'archive que nous allons vous faire entendre concerne une visite qu'au Grand Palais, à l'occasion d'une exposition sur les Taïnos, un peuple ancien des Caraïbes,
oui,
à laquelle,
oui,
il n'était pas étranger, Jacques Chirac faisait ses commentaires. Vous êtes prêt pour une longue écoute, Catherine Clément, patiente, 8 minutes 50 avec Jacques Chirac sur ce sujet, et ensuite on vous retrouve.
C'était un peuple qui n'avait pas d'écriture, qui n'avait pas de structure étatique, qui avait une organisation villageoise, avec à sa tête un chef qui s'appelle le cacique, dont on connaît mal en réalité le fonctionnement, parce qu'il y a peu de témoignages, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de structure étatique ou d'écriture qu'on n'a pas d'imaginaire, de spiritualité, de culture. Et ces gens avaient de très grands artistes, comme en témoignent les objets qui ont été rassemblés par Jacques Kerchas, qui sont les quelques 80 plus beaux objets qui restent de cette civilisation taïno-arawak. On connaît mal leur organisation. On sait qu'ils pratiquaient le jeu de balle de façon très active et probable.
On en parlera tout à l'heure, oui. Du batté.
Du batté,
vous êtes devenu un expert en football et en batté.
Non, parce que personne n'a jamais vu jouer au batté. Parce que dès que les Espagnols sont arrivés, pour essayer de protéger leur propre culture...
Là, vous parlez des Espagnols, de Christophe Colomb, pas du Real Madrid, hein, on est bien d'accord.
Non, oui.
Parce que ce soir, il y a une légère confusion possible.
Oui, pas de commentaire sur ce point. Quand les conquistadors sont arrivés, les Taïnos ont cessé de pratiquer ce qui pour eux était une action tout à fait courante, quotidienne et essentielle et probablement très spiritualisée, qui à l'origine avait, j'imagine, quelque chose un peu comme le sumo japonais. Et ils se sont arrêtés immédiatement pour pas se montrer à des étrangers dans l'exercice de quelque chose qui était très spirituel. Si bien que personne n'a jamais vu comment on jouait à la balle. Mais il y avait dans chaque village au moins deux et parfois trois ou quatre grands terrains de jeu, dont l'un devant la maison du cacique.
Qui ressemble à un terrain de foot, c'est vrai. Ou de hockey.
Ah, oui, mais on ne sait pas
de rugby, d'ailleurs, Jean Lacouture. Vous voulez absolument que ça lance du rugby.
Les études qui ont été faites... ce sont des gens qui étaient, n'est-ce pas, contemporains des Incas du Pérou, des Aztèques du Mexique ou des Mayas du Yucatan, et ils avaient sans aucun doute beaucoup de liens avec les Mayas, et les études qui ont été faites, enfin, Jacques Kerchas en témoigne, laisse à penser
que... Vous criez quand vous n'êtes pas d'accord, hein, Jacques.
Laisse à penser qu'on lançait la balle à partir d'un coup de hanche. Mais enfin, personne ne l'a jamais vu, car il n'y a aucun témoignage des conquistadors sur le jeu de balle.
Alors, on va revenir à cet emblème symbolique du pouvoir que vous mentionniez tout à l'heure, qui concerne à la fois les chefs, les caciques, les béis, qui sont les prêtres guérisseurs, et les nitainos, qui étaient la caste aristocratique, et c'est les duos, ça concerne les premières salles de cette exposition, et ce sont des sièges qui sont étonnants, parce que c'est des sièges honorifiques, et dont le design, on dirait aujourd'hui, on pourrait dire encore aujourd'hui, comment vous dites, la stylique. Comment Toubon vous fait dire, la stylique.
La stylique.
Bon, dont la stylique rappelle les artistes contemporains.
Jacques Toubon a décidé que ce serait dorénavant la stylique.
Bah, écoutez, oui, puisque vous êtes mon invité ce soir, voilà, on fera comme si. Mais je vous promets que demain, je reprends les mots. Alors, on va voir peut-être des duos.
Ce sont des sièges. Enfin, on dit que ce sont des sièges. Ça, Jacques Kerchas affirme que ce sont des sièges. Et je crois qu'il a probablement raison. Et il n'en reste pas moins que ce sont des objets qui ont une singulière familiarité avec des objets qui existaient à la même époque en Amérique du Sud, qu'on appelait des métatés, et qui eux servaient en réalité par les pieds à écraser le maïs. C'était en réalité des objets pour faire de la pâte de maïs. Comme dans les grandes Antilles, il y avait bien un peu de maïs, mais c'était surtout le manioc que l'on utilisait pour la nourriture. Le manioc, ça ne se pile pas, et par conséquent, ça ne peut pas avoir cet objectif. Donc c'est probablement des sièges. Tous les chroniqueurs
ont vu les grands caciques et les Taïnos assis.
Les Espagnols ont été reçus en hommage.
L'un de ces duos que vous avez vus, apparaît-il, eu l'hommage
du fondement de
Christophe Colomb. Oui, exactement. Il paraît que c'est assis dessus.
Il a été donné par.
Alors les Espagnols ont tout pillé. Alors parce que ces pièces, qui étaient très belles, avaient beaucoup d'or. Il y avait de l'or dessus. Il n'y en a plus qu'une qui a une trace d'or. Naturellement, les Espagnols se sont précipités, ont arraché l'or, ont porté l'or. Avec l'or qui les intéressait.
Alors ces sièges, on les trouvait dans les cérémonies officielles, dans le jeu de batay dont on parlait tout à l'heure, et puis dans le rituel de la kaoba. Et alors ce rituel de la kaoba, il occupe aussi un certain nombre de salles de cette exposition, parce que c'est une cérémonie religieuse qui qui entraînait finalement énormément d'usages d'ustensiles et d'objets.
Oui, en réalité...
Alors, tout ça, je parle sous votre contrôle, hein, donc vous m'arrêtez.
Oui, en réalité, les Taïnos avaient donc des chefs qui s'appelaient les caciques. Chaque village avait un chef qui s'appelait le cacique. Et il y avait aussi ce qu'on pourrait peut-être appeler des chamans, à défaut d'un autre terme, une sorte de prêtres, d'intercesseurs avec le passé, les morts, les esprits. Et cette intercession se faisait grâce à l'absorption d'une drogue hallucinogène qui était préparée. Donc il y avait des plats spéciaux, des pilons pour préparer cette drogue, qui était réservée au seul chaman, au seul intercesseur, et qui, appuyé sur des petits plateaux que l'on voit, inhaler cette drogue, et à partir de cette inhalation, avait un contact avec les esprits et pouvait ainsi indiquer au village ce qu'il fallait faire.
Vous avez oublié les spatules vomitoires.
Alors, parce que je ne voulais pas rentrer dans un détail, après dîner, mais effectivement, pour pouvoir pratiquer la kaoba, il fallait se purifier et donc rester jeûner pendant un certain temps avant d'inhaler la drogue, et on avait des objets superbes que vous avez montrés tout à l'heure, en voilà, et qui sont des spatules vomitives, et qui servaient à faire vomir pour se purifier complètement avant de pratiquer la kaoba.
Alors là, dans ces flûtes à inhalation, c'est vraiment des machines à sniffer. Parce que sniffer est un terme à peu près français, donc on peut encore l'employer.
Oui, on peut encore, oui, on peut vous laisser cette tolérance, en voilà. Tenez, en voilà, moi j'appellerais ça plutôt un inhalateur.
Oui, enfin, chacun son trait.
Ça fait un peu, oui. C'est moi, je fais dans le classique. Et alors ça permettait. Mais vous savez, on voit quelque chose de tout à fait étonnant. Tous ces objets sont en réalité ce qu'on appelle des émis, c'est-à-dire à la fois sont des objets qui sont soit simples, soit zoomorphes ou anthropomorphes, et qui ont une double destination. Ce sont à la fois des dieux et les manifestations extérieures de ces dieux, ou de ces esprits. Et chaque fois que l'homme est représenté, et ça c'est très typique de l'art taïno, je crois qu'on ne le retrouve pas ailleurs, en Afrique ni en Amérique, chaque fois que vous les voyez représentés, on voit les côtes et les vertèbres qui sont très fortement marquées et qui indiquent l'effort réalisé au terme de l'inhalation de la drogue pour communiquer avec l'esprit.
Si cette archive servie après déjeuner est longue, c'est parce que l'émission a été préparée à la hâte. C'est pour éprouver la patience de Catherine Clément qui est au bout du fil.
Oui.
On entend dans cette archive la voix cassée de Jacques Kerschach, initiateur du musée du Quai Branly, dont êtes une des gardiennes, Catherine Clément. Et puis on entend surtout la stupéfaction des journalistes qui passent sous le contrôle de Jacques Chirac, qui en sait énormément, et ça étonne beaucoup le journaliste.
Ça les étonne parce qu'à l'époque, il donnait l'impression aux journalistes d'être un abruti qui n'aimait que la musique militaire, ce qui était absolument faux. Et il l'a dévoilé sans être profond à ce moment-là. Mais il n'y a pas que Kerschach qui est visité le musée du Quai Branly. Il y a Lévi-Strauss. Il y a surtout Lévi-Strauss. Dieu sait que ce musée a suscité des tollés de la part des anthropologues, mais le plus grand d'entre eux, lui, soutenait fermement l'idée du Quai Branly, et pour une raison simple. Toutes les collections d'art plumaire de Lévi-Strauss avaient été, pendant son absence, pendant la guerre, nettoyées avec du dissolvant, et donc, toutes les plumes étaient tombées, et donc ces collections étaient mortes. Donc il en voulait beaucoup au Musée de l'Homme, et voilà pourquoi il fallait absolument un musée nouveau, et surtout sérieux techniquement. Ce que n'était pas le Musée de l'Homme.
Dites-moi, Il disait n'aimer que la musique militaire, c'était évidemment une façon de se dissimuler. Il ne pouvait pas dire ouvertement qu'il préférait d'autres mondes au monde occidental.
Ben, il a commencé à le dire à cette exposition Taïnou, puis après ça n'a pas arrêté. L'image la plus bouleversante pour moi, c'est la visite officielle de Jacques Chirac au Nunavut. C'est en 2010.
Alors dites-nous où c'est le Nunavut, Catherine.
Alors Clément. Le Nunavut, c'est le seul état autochtone du Canada. C'est un pays du Nord, c'est un pays de neige.
C'était tout un problème d'ailleurs d'organiser cette visite, parce que comment garder le contact avec les services secrets, avec les services de sûreté nucléaire.
Oui, c'était pas de la tarte, il n'y a pas de doute. Mais l'image était bouleversante. Il a décoré dans le nouveau parlement du Nunavut, le père de la nation Nunavut, si on peut dire, John Amagualik, qui était le fondateur de ce premier état autochtone. Et c'était très émouvant. Le parlement était très grand physiquement. Il a la forme d'un traîneau, mais à l'intérieur c'est tout petit parce que ça ressemble à un igloo. Et c'est éclairé à l'huile de phoque. Et c'était tout à fait saisissant. C'était la première visite officielle d'un chef d'État étranger au Nunavut. Ça, c'est le souvenir que je privilégie entre tous. Il a fait un discours magnifique ce jour-là.
Une question ou une observation d'Alain Gérard Slama, qui n'est pas l'auteur de ce discours.
Non, je ne suis pas, certainement pas. On l'entend d'abord parler naturellement comme il le faisait. Il n'y a plus cette raideur quand il parlait de politique. Mais indiscutablement, le tiers-monde l'intéressait.
On pourrait dire le tiers-monde.
Le tiers-monde, je veux dire, mais bien sûr qu'il appartenait.
Ça, c'est une expression spéléologique.
Il appartenait à cette génération, mais bien sûr.
Enfin, il a quand même commencé par faire du sanskrit quand il était adolescent.
Et il a fait du russe, oui, c'est vrai, bien sûr. Et puis
Le tropisme était bien avant.
Ah oui, bien sûr, je ne dis pas du tout qu'il soit borné, c'est pas du tout ça. Je dis qu'on peut être tiers-mondiste et être ouvert, on peut être tiers-mondiste et être de droite, on peut avoir été également passionné par Pouchkine et ne pas être libéral. C'est ça.
Mais moi, je m'arrête à cette expression de tiers-monde, parce que une des questions qui apparaît depuis le début de cette émission, c'est le caractère archéologique de la pensée de Jacques Chirac. Il n'employait pas le mot tiers-monde à la fin, en tout cas.
Alors ça, je n'en veux pas, moi, de cette expression, parce qu'elle est trop politique pour un sujet qui le préoccupait profondément. S'il a commencé par faire du sanskrit, c'est qu'il voulait après devenir un spécialiste au musée Guimet, où il travaillait d'ailleurs comme grouillot, il préparait des cafés, il aidait à ranger, donc il avait un tropisme vers l'Est, vers l'Asie, qui n'a rien à voir avec la politique et rien à voir avec le tiers-monde, et qui ensuite s'est étendu au monde entier, puisque le Nunavut est en Amérique du Nord, qu'il a fait de nombreuses visites en Inde, qu'il a été énormément dans les pays d'Afrique, et je me souviens l'avoir vu chez les Dogons au Mali, c'était tout à fait stupéfiant.
C'est-à-dire, raconter.
Eh bien, écoutez, d'abord, il y a eu un voyage en hélicoptère où j'étais entre le président du Mali et le président Chirac. Hélicoptère portes ouvertes, donc on n'entend rien, on voit, mais on n'entend rien, parce que ça fait un boucan du diable, mais nous avons vu tous les trois les fameuses tombes des Dogons qui sont tout à fait en hauteur et qui sont inaccessibles d'en bas. Et puis quand l'hélicoptère s'est posé, il a été fait, ce qui est une drôle d'idée, sage Ogon. Alors, en réalité, dans les villages d'Ogon, le Ogon est le plus vieux du village, et surtout, il doit absolument vivre à l'écart de tout le monde. Il est servi par une vierge qui n'a pas encore ses règles. Donc, vous imaginez Chirac dans cette posture, et il n'a pas le droit de poser le pied dehors. Donc, le faire sage Ogon alors qu'il avait des chaussures aux pieds était en soi une chose assez drôle. Mais il s'était adapté à ça. Et je me souviens aussi ça je ne sais plus la date, ça se passe à l'Élysée, il y a un grand rassemblement de peuples autochtones à l'Élysée, dans l'Élysée même, il y en a un qui passe pas les portes, dont la coiffe est si large, la coiffe de plume est si large, il faut lui ouvrir la grande porte pour qu'il passe, et les autochtones qui étaient des Américains du Nord pour la plupart, des Canada et États-Unis, se sont mis à danser. Un peu comme dans les Indes galantes, vous savez, il y a une
l'entrée des sauvages.
Exactement. Ils ont commencé à faire ça en piétinant, et Chirac a emboîté le pas, et tous ses conseillers étaient horrifiés, parce que si jamais il y avait une photo, vous vous rendez compte. Mais donc il a fait ça très naturellement, ils étaient naturellement entraînés à Oui, il était autochtone. Je crois qu'il avait une partie autochtone en lui-même.
Merci à vous de ce témoignage et de toutes ces images rassemblées, Catherine Clément. Juste un mot pour finir, Alain-Gérard Slama. Xavier Emmanuelli, proche de Jacques Chirac, ancien secrétaire d'État à l'Action humanitaire, m'a dit « Non, je viens pas, j'ai trop de chagrin. » Et puis j'aurais aimé qu'on l'accompagne autrement, les uns et les autres, et puis peut-être le pays tout entier, dans les dernières années de sa vie. C'est vous qui avez le privilège de finir, Alain Gérard.
Bien, l'accompagner jusqu'au dernier stade de sa vie, c'était avant sa mort, bien sûr. Car il s'est éteint progressivement, dans des conditions qui sont absolument très pénible, et je comprends la réaction de M. Emmanuelli, évidemment, par rapport à ça. Mais je n'ai pas un tempérament à prononcer des discours de deuil. Ce qui est encore vivant chez Chirac, c'est vraiment deux choses. La première, je la retire d'une expérience, quand on lui a reproché de ne pas faire la politique de la droite après sa réélection avec 82% de voix de gauche. Il a mené la politique de ses électeurs. Son obsession, c'était de ne pas diviser les Français.
Et la deuxième idée.
Et la deuxième idée, c'est celle que je vous disais tout à l'heure, et je suis heureux d'avoir l'occasion de le répéter, c'est que pour lui, autant il fallait respecter les États et les politiques d'État, parce que ce sont des souverainetés nationales, autant entre les États, les relations doivent être de droit, et quand on viole le droit, ce qu'a voulu faire Bush à propos de l'Irak, eh bien à ce moment-là, on met l'humanité elle-même en danger.
Merci à toute l'équipe de la Marche de l'Histoire.